RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC. Le week-end des experts qui revient. Nous sommes toujours au cœur de ce rendez-vous animaux que nous vous proposons tous les dimanches. 6h-8h avec Laetitia Barlerin. Notez que juste après, entre 8 et 10, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, s'il se réveille. Oh, je pense que oui.
On va lui passer un coup de fil, là.
On va lui passer un coup de fil. Attention, Jean-Luc. Il est 7h10. Jean-Luc sera là, donc, tout à l'heure, répondra à toutes vos questions auto. Et nous nous intéresserons à la vérité sur les consommations des véhicules. Vous le savez, c'est du grand n'importe quoi. On essaiera de vous faire comprendre comment fonctionnent tous ces systèmes de consommation des véhicules. D'autant qu'une nouvelle norme va bientôt arriver. On rentrera dans les détails. Vous pourrez, bien sûr, poser vos questions. Laetitia, tout à l'heure on va évoquer les chenilles processionnaires qui reviennent.
Mais oui.
Elles ne sont pas contentes.
Et elles sont en recrudescence, je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis quelques années.
Voilà, on en parlera parce que c'est vrai que c'est un danger pour les animaux, notamment pour les chiens. Laetitia, on évoquera aussi des mini-fermes qui arrivent en ville.
Et oui, de plus en plus de municipalités décident d'offrir des poules à leurs administrés pour diminuer les déchets.
Ça, c'est cool.
C'est cool.
C'est, bah, poules, oui. C'est cool, les poules.
Et les poules, bah justement, il y a une ville qui a lancé une campagne qui s'appelle « Les poules, c'est cool ».
Et bien voilà. Et en plus, on a des œufs. On a vu ça tout à l'heure avec Philippe, notre auditeur. Et... voilà, c'est ça. Et pour débuter, nous allons nous intéresser à un ouvrage, 45 ans de protection, une vie de combat. Et nous avons le co-auteur de ce livre, Liliane Sujanski, avec nous, Laetitia, ce matin.
Voilà. Bonjour Liliane.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous venez d'écrire, c'est vos mémoires, puisque vous revenez sur 45 ans voués à la protection animale. Alors... il est vrai que le grand public vous connaît peu, pourtant vous avez dirigé l'ASPA, puis la Fondation Brigitte Bardot, avant de travailler pour la Fondation Assistance aux Animaux. Donc vous avez quand même un bagage concernant la protection animale. D'où vous vient cette vocation pour la cause animale ?
Mais je pense que c'est instinctif. J'ai commencé quand j'étais enfant, c'était pendant la guerre. Je me promenais souvent quand on était réfugiés dans la campagne, que j'adorais parce que je connaissais pas très bien où on venait de la ville. Et puis, il y avait des animaux d'abandonnés un petit peu à droite et à gauche que je ramassais.
Oui.
J'ai commencé très très tôt à ramasser des animaux, les amener chez mes parents, et puis d'essayer de les sauver. Puis après, ça a commencé, mon amour pour les animaux a commencé à ce moment-là. Et comme très souvent dans la campagne, on élève des moutons, on élève des petits animaux pour manger, surtout pendant la guerre. Mes parents le faisaient, mais moi, je ne supportais pas. Ça m'a fait beaucoup souffrir et je crois que c'est ça qui m'a développé encore plus l'amour des animaux.
Alors, vous avez été pendant 10 ans directrice de la SPA dans les années 80. Oui. Quel est votre souvenir le plus marquant de cette période ?
La SPA était quelque chose d'important parce que il y avait quand même des bénévoles, de nombreux bénévoles.
Oui.
Il y avait la SPA est connue naturellement, donc il y avait tout de même des dons qui permettaient de faire des actions pour sauver le plus d'animaux possible quand il y avait, surtout quand il y avait des personnes qui martyrisaient leurs animaux. Et je crois que à l'époque, ça fait déjà quelques années. Et il y en avait davantage que maintenant.
C'est-à-dire que la situation des animaux, en tout cas du statut des animaux, a bien évolué.
Ah oui, à l'époque il y avait pratiquement pour faire quelque chose en faveur des animaux, c'était très difficile. Maintenant, il y a tout de même des lois. On a quand même pu toucher les responsables de nos pays, parce qu'il n'y a pas que la France, c'est partout. Et oui, actuellement, c'est plus facile de lutter parce que c'est plus facile de lutter quand il y a un animal
un animal maltraité, parce que les juges aussi sont plus à l'écoute.
Oui, voilà. Maintenant, on écoute. La police a quand même des textes de loi qui lui permettent d'intervenir dans les voitures, par exemple. Avant, ça n'existait pas. La police peut ouvrir une voiture maintenant et sortir un chien qui est en plein soleil.
Oui, c'est vrai qu'avant on pouvait pas.
C'est vrai. C'est
avant,
vrai.
On pouvait pas, on n'avait pas le droit.
Et vous avez alors vous avez travaillé avec Brigitte Bardot, hein, vous l'avez aidée à créer sa fondation, la fondation Brigitte Bardot. Elle est devenue votre amie. Comment vous êtes rencontrés?
Pour sauver des animaux.
Toujours.
Tout simplement, un jour, j'ai appris qu'il y avait un refuge où les animaux mouraient et se mangeaient même entre eux tellement ils avaient faim.
Un refuge?
Un refuge, oui. Oh, c'était un mien d'ailleurs. Et Brigitte était au courant, m'a appelé à ce moment-là. Et nous avons fait connaissance, nous sommes partis ensemble, deux ou trois fois pour nourrir d'abord les animaux, puis ensuite...
Pour les sauver.
Nous les avons sauvés, oui. Alors, j'avais la possibilité de le faire, parce que directrice de la SPR, ça voulait dire que j'étais quand même à la tête du plus grand refuge d'Europe, qui était le refuge de Gennevilliers. Donc nous avions la place pour mettre une centaine d'animaux d'un seul coup.
Mais elle écrit, parce qu'elle a écrit votre préface, et elle écrit que vous avez quand même monté un commando, une nuit de Noël, pour aller sauver des animaux dans un refuge.
Oui. La nuit, on est parti, le soir, en fait. Et en une heure, j'avais quand même du personnel qui était habitué à ce genre de travail, qui venait de Gennevilliers, donc du refuge, qui était absolument adorable. Avec nous, parce qu'ils ont compris, ils aimaient les animaux quand même, ils travaillaient pour la SPR, mais ça ne les empêchait pas d'aimer les animaux, et ils m'ont aidé énormément à sauver ces animaux. Mais ça n'est pas le seul, on a sauvé aussi, avec Brigitte, des animaux d'un refuge, par exemple.
Et des loups aussi, j'ai vu.
Ah, les loups, c'est encore un autre problème. Les loups étaient en Hongrie, comme mon mari est hongrois. Nous avons su qu'on a tué, ils ont tué les loups de Mongolie. Ils ont sauté dans Mongolie, ils ont tué les mamans. Ils ont ramassé des loups, pensant qu'on pouvait s'en servir après. Bon, et puis finalement, il y a la Convention de Washington qui protège ces loups. Compte tenu qu'ils étaient nés d'une mère, on a pu les sauver et on les a ramenés en France. Ça a été, je crois, le plus beau voyage que j'ai fait. Avec les loups.
Liliane, vous restez avec nous. On va revenir dans un instant. Nous aurons Magali qui nous appelle au 3216. On parle de la maltraitance animale, évidemment régulièrement dans cette émission. Magali a une idée, donc on va l'écouter dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Pratiquement 7h20 sur RMC. Notez que dans une dizaine de minutes, on fera un point sur la météo et les infos. Laetitia, nous sommes avec Liliane Sujanski, donc qui est co-auteur de 45 ans de protection animale, une vie de combat, préfacée par Brigitte Bardot, on en a parlé il y a quelques instants. Et nous avons aussi Magali qui nous a appelé au 3216. Bonjour Magali.
Oui, bonjour.
Bonjour Magali.
Bonjour Magali.
Oui. Alors, bonjour Laetitia, François et Madame Sujanski.
Alors, on vous écoute.
Magali, oui, voilà, vous êtes très protection animale et vous avez une idée pour les animaux.
Oui, voilà, je suis bénévole depuis 5 ans dans une SPA du sud de la France.
Oui.
Et donc je souhaiterais que Madame Sujanski puisse m'apporter un éclaircissement sur un point qui, à mon sens, fait défaut à la protection animale. Comme vous le savez, il existe déjà un fichier central d'identification des carnivores domestiques, l'ICAD, qui permet de retrouver rapidement un animal.
Bien sûr, grâce à la puce,
Voilà. Par contre, il n'existe pas, à ma connaissance, de fichier central d'identification des maîtres maltraitants ayant été condamnés par un tribunal. Donc, je m'explique, à l'heure actuelle, suite à des actes de cruauté avérés et jugée par un tribunal, une personne incriminée peut être interdite de détenir donc un animal, soit à titre provisoire, soit à titre définitif. Mais à l'heure où les cas de maltraitance sont de plus en plus rendus publics par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des médias, quels contrôles et suivis sont-ils effectués par la suite? Et qu'en est-il si la personne décide de déménager et d'enfreindre cette interdiction en adoptant un nouveau dans une association qui se trouve dans une autre région, chez un particulier, ou en récupérant un animal dans la rue, ce qui est déjà plus compliqué. Il me semble qu'en cas de nouvelle dénonciation pour maltraitance à son encontre, ce fichier pourrait éviter d'avoir à relancer toute une procédure administrative et judiciaire, si les associations, les forces de l'ordre et la justice pourraient avoir un logiciel commun permettant la réquisition immédiate de l'animal. Je suis certaine, bien sûr, qu'un grand nombre de personnes œuvrant comme vous pour la condition animale y ont pensé avant moi. Et je citerai, par exemple, une pétition adressée en 2013 à M. François Hollande. Mais un tel fichier n'ayant pas encore vu le jour, Et je rajouterai, à l'heure où les animaux ont été enfin reconnus officiellement comme êtres vivants doués de sensibilité par le Code civil, quels sont, à votre avis, les obstacles qui pourraient empêcher à présent sa mise en œuvre ?
Alors, en clair, vous voulez un fichier avec les personnes qui ont été jugées pour maltraitance, que puissent consulter les forces de l'ordre, bien sûr, mais aussi les associations de protection animale pour éviter, par exemple, de l'adoption d'un animal par ces personnes qui ne doivent pas, enfin, les juges prononcent de plus en plus comme sentence, justement, l'interdiction d'avoir, de posséder un animal ou d'élever un animal, des animaux, soit temporairement, soit pendant toute leur vie.
Oui, il aurait fallu avoir l'avis de Maître Xavier Baquet, là, dans ce cas précis.
Oui, on lui demandera.
Liliane, qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une idée excellente, mais à l'époque, j'avais commencé cette procédure.
À la SPA ?
Oui, à la SPA, au refuge de Gennevilliers, on avait eu la chance d'avoir le don d'un tout un système informatique qui nous permettait de le faire. Et puis bon, je suis partie de la SPA, je suis arrivée chez Bardot, et ça n'a pas, à la SPA, ils n'ont pas continué.
Mais ils ont détruit peut-être les fichiers.
Ils ont détruit tout. Alors que c'était quand même dommage parce que il y avait ceux qui martyrisent des animaux, il y avait ceux qui adoptent, ceux qui voulaient adopter, on avait un fichier important.
Est-ce que dans les refuges, par exemple, est-ce que vous avez un fichier, vous savez, il y a des gens qui abandonnent d'un point de vue pathologique, dans le sens où ils prennent un animal, 6 mois après ils l'abandonnent, ils en reprennent un autre, ça existe. Est-ce que vous avez un fichier pour ces personnes-là?
Oui, ça existe. Malheureusement, ça n'en va pas partout parce que la SPA, c'est beaucoup de refuges, c'est beaucoup d'associations.
Oui.
Et donc, ça n'est pas certainement pas partout. Il faut avoir les moyens de le faire. Et puis, il faudrait que ce soit quand même, une association importante qui le décide avec l'accord des pouvoirs publics.
Oui, parce que c'est quand même un peu.
Il y a cette chose-là. Pourquoi je crois en fait, c'est à l'époque où j'ai. C'est un petit peu après, j'ai créé une association qui n'a rien à voir avec ça, mais je voudrais absolument en parler. C'est pour les enfants.
La Ligue contre la cruauté, oui, parce que vous avez créé une association qui milite pour la protection de l'enfant et de l'animal martyrisé. Pourquoi ?
Voilà, pourquoi ? Parce que, donc, avant de tout ça, avant d'être directrice, on veut savoir ce que c'est que la protection animale. J'étais donc déléguée de la SPA. Je faisais donc des enquêtes. Et j'ai plusieurs fois, même assez souvent, il n'est pas rare de trouver un enfant martyrisé en même temps que l'animal, surtout les chiens. Et à une époque, j'ai même sauvé un enfant qui est enfermé dans une cage à lapin. Donc c'est pas quelque chose qui existerait maintenant, enfin j'espère.
Oui,
c'est pour ça qu'il fallait absolument créer une association qui s'occupe des animaux et des enfants, parce qu'on découvrait les enfants martyrisés en faisant une enquête pour les animaux, et les associations de protection de l'enfance découvraient des animaux martyrisés. Et on a travaillé ensemble comme ça pendant plusieurs années. Je crois que ça n'existe plus non plus.
C'est vrai qu'on a démontré, on démontre encore aujourd'hui, qu'il y a un lien entre la maltraitance animale et par exemple les violences conjugales, la maltraitance des enfants, bien entendu, et que une même personne commence bien souvent par maltraiter les animaux avant de s'en prendre à un humain.
Complètement. Donc ça, le problème, c'est que les gens aiment les animaux ou les enfants, mais c'est très rare qu'on aime les deux en même temps.
Voilà.
J'ai été très surprise de ça.
Vous savez qu'aux États-Unis, le FBI a justement fait un fichier s'intéresse aux personnes qui maltraitent leurs animaux, ou en tout cas qui sont condamnées pour maltraitance d'animaux, parce que c'est souvent l'indicateur que cette personne peut après s'en prendre soit à sa femme, soit à des enfants, soit devenir carrément un serial killer. Et on sait très bien que les serial killers ont commencé à s'exercer, si je puis dire, sur des animaux avant de s'en prendre aux personnes.
Complètement.
Alors, pour finir, Liliane, merci Magali en tout cas pour cette idée.
Merci beaucoup Magali.
Merci. Et pour Liliane, pour quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut agir pour la protection animale ?
Il faut commencer par le début, faire des enquêtes.
C'est-à-dire aller dans une association et être enquêteur ou enquêtrice pour l'association.
Oui, c'est le début parce qu'on apprend, on voit ce qui se passe réellement.
D'accord. Et que ça soit la SPA ou 30 millions d'amis, etc., oui. C'est très facile. Et après, devenir peut-être agir après dans les refuges, non ?
Oui, mais alors il faut faire très attention dans les refuges. On peut agir dans un refuge. Je crois que c'est la première chose que font les gens instinctivement, ils aiment être près des animaux. C'est normal.
Oui.
Mais bon, c'est normal, mais après, il faut connaître le fonctionnement d'un refuge, connaître les lois, si possible. C'est, ça fait défaut aux protecteurs d'animaux. Ils vont directement sur les animaux, s'occupent des animaux, c'est très bien. Mais il faut connaître tout le système de la protection animale, essayer de connaître à peu près les textes de loi, et ça, ça prend très vite. Et, oui. Et avoir de bons contacts avec les pouvoirs publics.
Et c'est pour ça qu'en étant enquêteur, ça permet justement de mieux connaître tout ce dispositif législatif.
Merci. Oui, il faut aller absolument.
Merci.
Dans les bureaux, la protection animale sur le terrain, c'est-à-dire les refuges, et les services enquête.
Merci beaucoup Liliane d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Moi, je vous remercie.
Au revoir.
Alors, si vous voulez vraiment connaître tout ce qui est protection animale, je vous conseille de lire ce livre, 45 ans de protection, une vie de combat aux éditions du Puy du Roule, qui sont bien sûr les mémoires de Liliane sur ses 45 ans passés à la SPA, la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation Assistance aux Animaux.
La météo, les infos sur RMC, bientôt 7h30. Et on enchaînera, on découvrira des mini-fermes en ville. Et puis, on fera attention à l'ennemi des animaux et notamment des chiens, hein, lorsqu'on est à la campagne, il s'agit des chenilles processionnaires. On en parlera avec un expert tout à l'heure. Le 32-16, animaux@rmc.fr pour nous joindre à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Il est 7h32, c'est RMC et c'est le week-end des experts, les animaux. Alors que le chocolat tourne autour de ce studio, Laetitia. Côté standard, là, ça y va. Il y en a plein.
J'ai vu une poule.
Voilà, il y a des poules, il y a des œufs. Enfin, c'est la totale. On fête pas qu'avant l'heure. D'ailleurs, bon week-end, Pascal, à vous toutes et à vous tous. Profitez-en bien. Laetitia.
On va adopter justement la poule attitude.
La poule attitude. Mais pas attention, pas la poule qu'on casse et qu'on mange. Hein?
Quoique.
Attention, Laetitia. Là, on va parler des poules qui peuvent arriver en ville.
Eh oui. Et nous sommes avec Guylain Journet, qui est fondateur de Farmily. C'est une start-up, c'est un site internet spécialiste de la mini-ferme urbaine. Et Farmily qui travaille avec des municipalités qui ont décidé d'offrir des poules à leurs administrés. Guylain, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, installer un petit poulailler pour le matin collecter ses œufs frais est devenu tendance, hein, faut le dire. Même les municipalités commencent à adopter cette poule attitude. Alors, dites-nous pourquoi, quel intérêt ont les poules?
Alors, en fait, c'est tendance, effectivement, les gens se reconnectent avec la nature, avec le vivant. Et le jardin, si vous voulez, c'est un super terrain d'expression pour faire de l'écologie. Aujourd'hui, les gens ne vont plus uniquement dans le jardin pour tondre l'herbe ou élaguer les haies. Ils y vont vraiment pour se faire plaisir, pour se reconnecter avec la nature.
C'est une autre pièce de la maison.
Absolument. C'est, d'ailleurs, les études le prouvent, hein, c'est l'une des pièces favorites des Français. Ils y passent de plus en plus de temps.
Oui.
Et dans un contexte de crise comme celui qu'on connaît, c'est vrai que passer du temps au jardin, c'est gratuit et c'est du bien-être pour toute la famille. Et la poule, elle illustre un peu ce nouveau phénomène. Mais il faut quand même rappeler que la poule, elle a été domestiquée il y a plus de 8000 ans, 3000 ans en Europe. Donc c'est quand même un phénomène qui n'est pas récent. Les poules ont disparu un peu avec l'agriculture industrielle. Elles font un retour en ville, enfin en tout cas dans les petits jardins, et c'est quelque chose qui est très positif.
Et pourquoi les municipalités s'intéressent aux poules?
Alors elles parlent beaucoup des poules parce qu'on dit que les poules recyclent les déchets. Et effectivement, une poule recycle jusqu'à 150 kilos de déchets alimentaires par an. Donc ça, c'est un argument très fort pour les collectivités.
D'autant qu'il faut au moins deux poules. Donc on imagine deux poules pour une famille, ça fait 300 kilos de déchets qu'elle consomme par an, c'est énorme.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parliez des municipalités. Précisément, là, le week-end prochain, on va distribuer 200 poules pour des foyers volontaires dans la communauté d'agglomération de Versailles. Et si vous voulez, le but à terme, c'est d'avoir 200 familles volontaires. Il y aura deux week-ends de remise de poules.
Ouais.
Et à terme, sur l'année, la municipalité espère, comme ça, économiser 60 tonnes de déchets. Donc, c'est effectivement quelque chose d'assez significatif, puisque en plus, les déchets alimentaires, c'est vraiment ce qui pèse assez lourd dans poubelles, hein, ça représente plus de 30% des déchets d'un ménage. Donc ben voilà, la poule, c'est vraiment un super auxiliaire en termes d'écologie au quotidien.
Mais quel est votre rôle, vous, auprès de ces municipalités? Je sais que dernièrement, il y a Saint-Maur-des-Fossés qui a lancé Les poules, c'est cool.
Oui, absolument.
Il y a Versailles, il y a d'autres municipalités. Ça a commencé d'ailleurs en 2012, si je me souviens bien. C'était
dans la Sarthe.
Voilà, dans la Sarthe, un petit village qui s'appelait Pincé, qui a donné pour la première fois des poules à ses administrés. Et vous, quel est votre rôle?
Alors nous, donc, comme vous le soulignez, à Saint-Maur-des-Fossés, on a équipé avec des poulaillers. Là, cette fois-ci, à Versailles, ce sera avec les poules. Si vous voulez, nous, on a créé tout un univers autour de la mini-ferme urbaine et autour de la poule. On a créé nos poulaillers. On livre aussi les poules. On a référencé des éleveurs passionnés qui, si vous voulez, un peu nous proposent des races de poules qui sont vraiment sélectionnées, triées sur le volet. Donc, nous, on a aussi ce travail d'expert pour faire le lien, si vous voulez, avec les particuliers, pour les accompagner dans cette activité. Parce que
et oui, parce que c'est des novices quand même en élevage de poules.
Ah bah absolument, et puis bon, en fait l'élevage d'une poule c'est assez simple, hein, mais ça demande quand même quelques conseils, et aussi chez Farmini on fait pas uniquement de la vente, hein, on accompagne aussi les gens, on a notre guide du fermier en ligne qui les aide aussi à élever les poules, et donc on est là dans ce lien, dans ce rôle un peu de médiateur.
Alors les municipalités signent un contrat avec les familles qui acceptent de recevoir des poules. Quelles sont les conditions pour avoir un poulailler dans ces municipalités?
Alors, il faut avoir un petit bout de jardin quand même.
Oui, bah combien de mètres carrés?
Alors écoutez, pour une poule, dites-vous que dans un élevage en plein air bio, Label Rouge, une poule, elle a à peu près 5 mètres carrés d'espace extérieur.
Oui, donc, il en
vous
faut
avez
plus.
10 mètres carrés. On va dire que c'est vraiment le minimum pour avoir deux poules, mais dès que vous avez un petit jardin à partir de 100 mètres carrés, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir deux poules. Donc voilà, la condition c'est d'avoir un petit jardin, d'avoir un poulailler bien entendu, et puis aussi d'avoir envie d'avoir un animal. L'intérêt c'est le recyclage des déchets, mais pas uniquement. Donc les personnes vont signer une petite charte où elles s'engagent à garder l'animal, à le respecter et puis à bien s'en occuper tout simplement.
Et à pas tuer la poule pour le déjeuner dominical.
Ah bah non, en plus non, c'est pas le but, hein. Les gens ils le font aussi, ils assimilent un peu la poule comme un animal de compagnie, ils s'y attachent, hein. on s'y attache quand même assez vite à une poule, et donc voilà, c'est pas uniquement dans un but strictement écologique.
Et alors en plus, moi je suis en train de surfer sur votre site là, Guilin, vous avez 28 poules, hein, 28 races de poules différentes.
Ah oui, comment les choisir?
Oui, alors il y en a même encore plus, hein. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que la poule c'est aussi quelque part de la biodiversité, parce que dans chaque région, dans chaque département, vous avez souvent des races de poules. Et d'ailleurs, dans l'opération de Versailles, le 28 mai, on va distribuer la poule de Houdan, parce qu'il y a certaines familles volontaires qui ont participé à l'opération pour préserver cette vieille race de poule, hein, qui existe depuis le XVIIe siècle et qui est une race originaire des Yvelines. Donc il y a aussi, si vous voulez, cet intérêt de remettre au goût du jour d'anciennes races de poules qui ne sont plus élevées dans les élevages professionnels et qui ne sont élevées que par des poignées, si vous voulez, d'éleveurs passionnés.
Alors, ce qui est génial, c'est que si par exemple j'achète une poule sur votre site, vous livrez dans toute la France.
On livre dans toute la France, en France métropolitaine, et c'est ça qui est chouette, c'est que d'ailleurs on livre à Nice, à Strasbourg, à Lille, un peu partout.
Mais vous la mettez dans un colissimo, la poule, comment vous faites?
C'est un transporteur spécialisé
avec un petit carton avec des trous pour qu'elle voyage bien. Non, elle voyage vraiment en express et en première classe.
Ah voilà, en business. Ouais. Alors, tout ce qu'il faut.
Justement, Guilin, si on veut avoir un petit poulailler chez soi avec deux poules, alors vous vendez des poules, des poulaillers, des accessoires. Quel budget prévoir
aussi, hein.
Et l'alimentation,
alors,
quel budget prévoir?
Le budget, on va dire qu'à partir de 200 euros, vous pouvez avoir un petit poulailler. Après la poule, bon bah une poule d'ornement comme la poule de Houdan par exemple, ce sera plutôt autour de 35 euros.
Oui, mais c'est une poule de luxe, hein, comme on dit.
Oh oui, enfin 35 euros, c'est quand vous allez en jardinerie, hein, là, même un hamster en général, c'est pas vendu beaucoup moins. Voilà.
Vous, ça après, commence vous à 15 euros sur votre site. Hein.
Ça commence à 15 euros jusqu'à 35-40 euros, et puis après pour tout ce qui est l'alimentation, c'est vraiment un petit budget. C'est la poule, c'est pas un loisir qui est cher.
Et en plus, elle nous ramène des œufs quand même plusieurs fois.
Elle ramène des œufs, tout à fait. Une poule, c'est près de 200 œufs par an, et en plus des œufs fermiers. Hein. Les œufs fermiers, ça coûte près de 50 centimes pièce dans le commerce, donc c'est très vite une opération à la fois avec du plaisir et puis même un peu de rentabilité.
Alors, tous ceux qui ont des poules me disent que chaque poule a une personnalité. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on hésite à la tuer, hein, pour la manger. C'est vrai?
Ben, c'est très amusant. Ouais. Quand vous avez deux poules, vous allez voir qu'elles ont chacune leur caractère. Il y en a une qui est souvent un peu plus farouche que l'autre. Moi, j'ai deux poules à la maison. Là, j'ai une bantam de Pékin et une poule soie. Et c'est rigolo parce qu'elles sont vraiment très, très différentes. Et c'est d'ailleurs rigolo de les voir jouer dans le jardin. Elles sont vraiment... Il y a une petite dynamique. C'est très drôle à observer.
Elles peuvent être familières aussi.
Elles peuvent être très familières, vous avez des races, notamment la bantam de Pékin, qui est une petite poule naine, très attachante, facilement vous pouvez la poser sur votre épaule, et c'est vrai que c'est un animal qui est très attachant.
Alors, au point de vue entretien, est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Parce que, bon, voilà, tout le monde travaille ou a d'autres choses à faire, est-ce que vraiment c'est un petit élevage qui prend beaucoup de temps?
Non, ça prend très peu de temps. Hein. L'idée, c'est le matin, vous allez récupérer votre œuf, vous surveillez si tout va bien, vous donnez un peu d'alimentation et de l'eau. C'est aller 5 minutes par jour. Là, si vous voulez, c'est un animal qui vit dans le jardin, donc il vit en relative autonomie. C'est pas vraiment comme un chien ou un chat, ou un lapin même qui vit à l'intérieur. La poule fait sa vie. Ça reste quand même un animal de ferme assez rustique.
Laetitia, c'est costaud une poule, je veux dire.
Ah oui, bah elle peut
en
vivre.
En tant que vétérinaire, voilà, c'est.
Elle peut vivre 6 à 9 ans, voire plus. Ouais. Moi, je sais que j'ai une personne qui m'a dit que sa poule avait vécu, je crois, 11 ans ou 10 ou 11 ans. Donc c'est quand même. Alors bon, elle pond pas toute sa vie,
non.
Faut quand même le dire. À partir de 5 ans, normalement, elle ne le pond plus. Puis après, ça dépend aussi des poules. Il y a des poules qui pondent plus que d'autres, voilà. Et puis alors surtout, si il y a les œufs peuvent être différents. Il y a des poules qui pondent des œufs chocolat, justement, puisqu'on est à Pâques,
ouais,
comme la poule marron.
C'est-à-dire que la coque de l'œuf est marron, c'est ça?
Voilà, et tiens. Chocolat. Ouais. Et j'ai découvert une poule qui pondait des œufs verts.
Des œufs verts?
La Rocana. Oui. Ouais,
la Rocana, voilà,
qui est
une
poule
sud-américaine.
Ouais. Très bon pour le cholestérol, hein, l'œuf de la Rocana. Ouais.
Et en plus, ce que j'ai découvert, c'est que ces poules étaient très familières par rapport à d'autres poules. Donc il y a certaines races qui sont plus familières que d'autres avec nous, hein, avec les personnes.
Mm-hmm.
Et vraiment, c'est très sympa d'avoir une poule. Alors, bien sûr, il faut penser aux vacances, mais ça aussi...
Ah, voilà, c'est ça.
Mais ce qui est bien, mais on peut demander à ses voisins d'aller les nourrir disant...
En échange, vous aurez des œufs.
Vous aurez des œufs, voilà.
C'est ça.
Ça crée des liens.
Bon, je suis donc sur Family, je crois que je vais me prendre la poule.
Farmily,
pardon.
Farmily,
exactement.
Et avec un i à la fin.
Oui, c'est ça. Et c'est farmily.com. Et je crois que je vais craquer pour la poule soie. Qui est très sympa.
Oui,
elle a un look,
Casino Royal, ouais, tout à fait.
C'est ça, c'est on dirait qu'elle sort d'une soirée un peu arrosée.
La poule soie.
Elle est un peu comme ça, là.
Voilà, elle a des plumes qui ressemblent à des poils, en fin de compte.
C'est un peu du duvet, effectivement.
C'est du duvet, voilà.
Ouais, elle est très sympa.
Et en plus, elle pond bien, non, elle est très chouette, elle.
Et
elle
c'est une très bonne mère.
Absolument, tout à fait.
Laetitia.
Très bonne couveuse, très bonne mère.
Ah, moi, vous êtes
au top de la poule quand même.
Ah,
hein.
Moi, je suis experte en poule. Attention.
Et puis,
j'ai même animé quand même une conférence sur le web pour les vétérinaires sur les poules, quoi.
Ah oui. Ah non, mais vous êtes au top du top, en fait.
En plus, tous les vétérinaires ne font pas la poule. Hein,
oui.
Ils sont très spécialisés dans les animaux de compagnie. Il faut plus de vétérinaires qui se spécialisent dans la poule.
Et ben, c'est bien pour ça que j'ai fait cette conférence, pour justement donner la base de la pathologie aviaire et des soins à faire aux poules, voilà.
Très bien, alors Guylain, sachez que bon, on peut trouver des poules sur votre site, mais il y a aussi des lapins, des oiseaux, des abeilles, mini potagers, etc.
Mais c'est vrai, c'est une tendance, je crois qu'il vient des États-Unis, le fait d'avoir une mini ferme chez soi.
Oui, les city farms, hein, les fermes urbaines, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, effectivement, et qui se développe beaucoup maintenant en France.
D'accord.
Ah, maintenant je suis passé sur votre volet lapin, il y en a des mignons aussi. Hein, c'est très
alors là on met en relation, on a la carte de France des éleveurs de lapins, on met en relation les gens directement avec les éleveurs de lapins.
Merci
Guylain.
En tout cas c'est super, merci Guylain.
Merci beaucoup.
Donc voilà. Je rappelle, votre site c'est Farmily. Voilà.
Merci.
Avec un i à la fin. Il est 8h moins le quart, c'est RMC. Bon, ça c'était tout mignon Laetitia. On va parler d'un animal qui l'est un peu moins.
Ah oui.
C'est pas terrible la chenille processionnaire.
Qui redémarre.
Ça vous a plu ça, hein, la chenille qui redémarre. Eh bien oui, la chenille revient les amis, donc elle redémarre, mais il faut faire attention parce que elle peut parfois piéger les chiens. Et ça peut être très, très, très dangereux, hein, Laetitia. On va en parler un instant.
Très grave.
Avec le docteur Véronique Ludeny, qui est vétérinaire à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Une région, évidemment, qui est exposée.
Touchée, bien sûr, par les
chenilles processionnaires. On en parle dans un instant. Il est 8h moins le quart. C'est RMC. C'est le week-end des experts. Les animaux. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h48, c'est RMC, c'est le week-end des experts et dans sa petite voiture, Laetitia Barlerin, le matin pour se réveiller, en venant donc ici à la radio, écoute ça les amis.
Approche tes mains à ma taille.
Et croyez-moi, sur le périph', ça rigole pas.
Pour pas que la cheminée râle.
Elle respecte les limitations de vitesse, mais... Et oui. Alors pourquoi on vous diffuse cette chanson quand même qui a...
De la bande à Basile.
Voilà, la bande à Basile qu'on a retrouvée dans tous les mariages, hein, Laetitia, bien évidemment, dans les petites fêtes. Parce que, et on évoque la chenille dans cette chanson. Mais vous savez quoi, la chenille revient, Laetitia, et elle n'est pas contente.
Et on va parler d'un grand danger en ce moment, les chenilles processionnaires.
Aïe.
Et nous sommes avec une consoeur, le docteur Véronique Denis, qui est vétérinaire à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Véronique, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Hey, bonjour, j'ai bien aimé votre chanson.
Ah, et nous aussi, ça faisait un moment qu'on n'entendait plus celle-là.
Eh oui, là, ça, on sort les vieux dossiers, là.
Ah, oui, oui.
Alors, les chenilles processionnaires sont de retour. Alors, elles font leur nid dans les pins, dans les cèdres, et au printemps, elles éclosent, et elles descendent au sol en file indienne, c'est pour ça qu'on les appelle les chenilles processionnaires. Elles représentent un danger pour les enfants, pour les animaux, surtout les chiens. Je suis allée dans le sud, là, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est juste une impression?
Ah non, c'est exactement ça, c'est terrible. Cette année, en fait, elles ont eu la mauvaise idée, avec le réchauffement, et vraiment cet hiver qui a été très doux, de descendre beaucoup plus tôt, et on est infesté.
Ah oui.
Oui. Et alors, je crois qu'il y a moins de pesticides il y a moins d'épandage de pesticides favorise leur multiplication.
Oui.
Tout à fait, c'est d'actualité. Vous savez qu'en ce moment, il y a la loi contre les néonicotinoïdes. Mais en fait, c'est un petit peu dans cette même allure. Depuis 2012, en fait, il y a une interdiction d'épandage de produits insecticides. Avant, c'était fait de manière aérienne. Les pins, les cèdres étaient arrosés de produits pour tuer, en fait, ces chenilles processionnaires qui ont une mauvaise tendance à infiltrer et à être de partout.
D'accord. Alors, quel est le danger lié à ces chenilles quand elles descendent justement des cocons? Alors, les cocons, on les voit l'hiver. Alors, c'est bien, ça fait un peu boule de Noël parce que c'est des cocons blancs dans les arbres, mais elles sortent de ces cocons et elles vont en terre, enfin, elles s'enfoncent dans la terre. Et quel est le danger à ce moment-là?
Alors tout à fait, on dirait en fait quand vous voyez sur des pins et sur des cèdres, alors nous en montagne, sur les pins sylvestres, on dirait vraiment des décorations de Noël, exactement Laetitia, mais c'est des décorations un peu funestes. En fait, ces chenilles après descendent, elles descendent en colonie sur le tronc des arbres et elles cheminent sur la terre, sur les chemins, donc en procession, et elles cherchent un endroit pour s'enterrer. Et le danger est terrible pour les chiens, là. Le danger est terrible pour les chiens et pour les humains, parce que ces chenilles ont des poils urticants qui sont très très agressifs et ça fait des brûlures.
Et comment, pourquoi le chien est attiré par elles justement?
Alors le chien adore renifler, chercher, pister. Alors le pire, ce sont les chiens de chasse, hein, qui ont toujours la truffe au nez, au sol, pour avoir les odeurs, l'ensemble des pistes, des phéromones, de ce qu'ils peuvent pister, recevoir comme information. Et en fait, en ayant le nez au sol, ils absorbent ou ils lèchent des poils de chenilles urticants. Le pire, c'est par la langue, en fait, parce que souvent aussi, ils sortent la langue pour avoir d'autres informations autres que par le nez. Et en sortant la langue, en fait, ils se brûlent complètement sur ces poils urticants. Et ce sont des brûlures du troisième degré qui sont très douloureuses.
Et ils peuvent perdre une partie de leur langue?
Tout à fait, en fait. Ça fait des nécroses. Alors, le chien se met à baver. Alors, les gens, rassurez-vous, hein, pour les auditeurs qui ont des chiens, malheureusement, ils s'en rendent compte tout de suite. Hein, parce que d'un seul coup, le chien se met à baver énormément, terriblement. Et la langue devient grosse. Elle grossit, ça fait un œdème.
Il a mal, le chien? C'est-à-dire qu'il va, par exemple, aboyer, crier, etc.?
Ah oui. Et puis, avec ses pattes, il veut presque s'arracher le museau et la langue. C'est vraiment une brûlure du troisième degré, donc. C'est terrible. Et après, en effet, comme disait Laetitia, la langue, elle grossit, puis elle devient dure, elle se nécrose. Ça fait des symptômes qu'on appelle en langue de bois. Et donc, en plus, il peut s'étouffer.
Alors, en urgence, qu'est-ce qu'il faut faire là, pour si on a son chien qui présente ces symptômes?
Alors, la première chose à faire, si on a de l'eau, c'est rincer. Voilà. Mais il faut faire attention parce que si l'humain l'humain. Moi, je soigne des chiens et des chats et autres. Et lui, voilà, il faut qu'il fasse aussi attention parce qu'il peut y avoir également des poils urticants sur son chien. Il peut être sensible lui aussi. Donc, si possible, mettre des gants, mais rincer, et évidemment, appeler son vétérinaire. Voilà, même si c'est 7h45 le matin.
Véronique, nous avons...
On est toujours debout, nous.
Ben oui, je vois bien.
Nous avons Dany avec nous qui nous a appelé au 3216. Bonjour, Dany.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour Dany.
Et moi alors.
À tous les trois.
À tous les trois. Il y a Véronique aussi, Dany.
À Véronique aussi.
Merci.
Alors Dany, vous êtes à Cassis, c'est ça?
Absolument. Oui.
Voilà. Je prends un superbe. Voilà.
À la porte des Calanques.
Oh là là, c'est beau. Voilà. J'adore Cassis.
Alors c'est sympa Cassis, mais les chenilles sont bien là-bas, non?
Ah, c'est une invasion. Une invasion.
Et vous l'avez remarqué cette année plus que les autres années?
Absolument, beaucoup plus. Moi, je pense que ça vient qu'ils ont supprimé les épandages en hélicoptère.
Oui, on vient d'en parler.
Et qu'elles prolifèrent comme des hystériques. Mais alors, c'est un animal que je déteste. Parce que j'ai failli perdre ma petite chienne il y a 3 semaines.
Ah oui?
Racontez-nous comment ça s'est passé.
Mais moi, j'ai un beagle. Mais c'était vraiment... à la porte des Calanques, tout de suite, même pas dans la colline, quoi.
Oui.
Sur un terre-plein, et j'ai une bigle qui a un gros nez, qui passe son temps à tout respirer.
Et bien sûr, oui.
Il y avait une espèce de traînée de 10 mètres de ces sorcières, et elle les a senties, mais elle les a pas mangées.
Oui.
Et puis je suis partie, et je me suis aperçue dans la voiture qu'elle vomissait.
Oui.
Et qu'avec les pattes, elle se grattait le nez comme une folle, qu'elle bavait. Je l'ai emmenée immédiatement chez notre vétérinaire à Cassis, qui a compris tout de suite, qui lui a fait des piqûres, bien entendu, qui l'a beaucoup rincé, comme a dit votre invité là, tout à l'heure.
Mmh.
Et puis, bon, mais ça a passé, évidemment. Mais je trouve que c'est un scandale qu'on ne peut plus emmener chez en colline.
Alors, justement, Véronique,
Parce que là,
comment
en plus, le chien n'a même pas mangé la chenille, c'est simplement la truffe. Elle les a simplement respirées. Parce qu'il y a quoi? Il y a des poils urticants.
C'est des poils urticants,
c'est ça, Véronique.
Qui sont volatiles, oui.
Tout à fait. En fait, le danger avec la chenille, c'est que ces poils urticants volent. Alors, c'est tout aussi dangereux, en effet, pour les chiens et pour les humains, parce que lorsqu'ils volent et que c'est sensible, par exemple, un certain invisibilis où nous, on est infesté aussi, hein. Voilà. On a eu malheureusement des gens qui en ont eu dans les yeux, et ça a fait des énormes kératites. Et nous, comme le disait madame, c'est complètement terrible, parce que tous les jours, on a des accidents avec les chenilles. Et en effet, on a tous les jours des accidents, mais depuis octobre. Et c'est pour ça qu'on a alerté les pouvoirs publics, parce qu'en principe, on avait... des accidents à chenilles, on en avait 10 par an, et c'était plutôt à partir de mars-avril lorsque les chenilles descendaient. Mais cette année, pour deux raisons, c'est-à-dire l'arrêt des épandages aériens depuis 3 ans. Donc en fait, il y a un cycle, et la masse de chenilles a augmenté, et puis le réchauffement de cette année qui était très marqué, qui avait l'hiver particulièrement doux, parce que nous sommes à la montagne, en principe on a de la neige, mais nous on n'a pas eu de neige. Donc les chenilles ont commencé leur procession, non pas en mars-avril, mais elles ont commencé leur procession en fin octobre-novembre.
Véronique, c'est jusqu'à quand la menace, là?
Alors, la menace, en principe, elle est jusqu'au mois de mai, en principe. En tout cas, nous, pour la montagne, on a le climat montagnard, je pense que ça va être à peu près mai-juin pour Cassis, parce qu'après, les chenilles, en fait, elles cheminent pour s'enfoncer dans la terre, se transformer en nymphes, et après faire leur processus de métamorphose de papillons. Mais alors, c'est pas des papillons super glamour, la chenille. Ils sont pas beaux.
Ils sont plus inoffensifs, en revanche.
Voilà, comment?
Ils sont plus inoffensifs, j'imagine.
Oui, mais ils pondent.
Mais voilà, c'est ça,
exactement.
Mais quand ils sont papillons, ils sont pas méchants, en fait.
Ils sont pas beaux.
Ils sont pas beaux.
L'essentiel est invisible pour les yeux, mais quand même, ils sont pas beaux, et après, ils seront méchants.
D'accord.
C'est comme Coluche, ils ont double peine. Et ils sortent la nuit parce qu'ils sont timides et sournois. Voilà. Et après, ils vont se reproduire.
D'accord. Merci beaucoup, Véronique.
Merci. Alors, je précise juste qu'il y a sur change.org, qui est un site de pétition. Il y a une pétition en ligne pour lutter contre la prolifération des chenilles en Alpes-Maritimes parce que c'est un vrai problème.
L'autre vidéo LOLCAT maintenant, alors elle est très drôle, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Ce sont des chats qui retrouvent leur maître après une longue absence et c'est tellement mignon. Voilà.
Alors moi mon chat il me fait la tête, oui. Alors dans le film là
ils font tous des papouilles.
Des câlins, c'est des trop mignon. C'est trop mignon.
Voilà, c'est un peu comme Jean-Luc vous voit, Laetitia, il vous fait des petits câlins comme ça.
Jean-Luc Moreau. Vous savez que j'ai des poules aussi moi.
Vous avez des poules?
Ouais, surtout ouais. L'été au bord de la piscine.
C'est ça.
C'est ce qu'on appelle
je me dis. Voilà.
Vous êtes le seul à avoir des poules en maillot.
C'est ce qu'on appelle des swimming pools.
Des swimming pools.
Mais qui sont vite grillés quand
ça
même.
Promet,
hein.
Ça promet. Le changement d'heure là, passé à l'heure d'été, c'est pas bon pour tout le monde. Merci Laetitia, à la semaine prochaine.
Merci à vous, je vous embrasse, à dimanche prochain.
Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile sur RMC. A tout de suite après la météo et les infos.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.